Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez à 11h sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Marco Le Ridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Luc Alazo. Réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Déborah Dagobert. Deuxième temps de notre série consacrée au déconfinement des colères à travers le monde, après nous être intéressés hier au réveil du mouvement antiraciste du côté des États-Unis, avant d'aborder demain le Irak du côté de l'Algérie et puis jeudi les manifestations au Liban, tournons-nous aujourd'hui vers Hong Kong.
Nous devons nous mobiliser, nous battre et faire savoir à Pékin que nous ne nous rendrons jamais. La loi sur la sécurité nationale est encore plus dangereuse et préjudiciable que la loi d'extradition introduite par le gouvernement l'année dernière. Et alors que nous manquons de temps à Hong Kong, nous pouvons dire que cette loi, c'est le début de la fin.
Des forces extérieures interfèrent illégalement dans les affaires de Hong Kong, ce qui constitue une grave atteinte à la sécurité nationale de la Chine.
Cette fois, la situation de Hong Kong est critique. Nous avons peur que le Parti communiste chinois utilise cette mauvaise loi pour opprimer encore plus les Hongkongais. Ils essayent de ruiner le principe « un pays, deux systèmes » et ils ignorent les objections du peuple.
Après de longs mois de manifestations et alors que l'épidémie de coronavirus avait mis en veille le mouvement de contestation, voilà que Pékin semble déterminé à reprendre la main sur Hong Kong, provoquant le retour de la mobilisation. En jeu, eh bien l'annonce fin mai de l'adoption d'une loi sur la sécurité nationale au Parlement chinois qui menace les libertés de la région administrative et qui remet en compte le fameux paradigme du « un pays, deux systèmes » énoncé par Deng Xiaoping en 1997 au moment de la rétrocession du territoire. Cette décision est d'autant plus inquiétante pour les habitants de la région administrative spéciale qu'elle s'inscrit dans une série plus large de mesures liberticides comme la criminalisation de l'insulte à l'hymne national et au drapeau chinois ou l'interdiction la semaine dernière des commémorations de Tiananmen au prétexte de la lutte contre le virus. Alors comment les différentes forces politiques à l'œuvre au sein du mouvement de contestation hongkongais se positionnent-elles face à ce nouveau tour de vis? De quelle marge de manœuvre disposent-elles? D'ailleurs, quelle est la réalité de la reprise du mouvement? S'agit-il d'un vrai retour en force ou plus modestement du baroud d'honneur d'un mouvement à bout de souffle? Et puis en quoi cette crise révèle-t-elle aussi l'exacerbation des tensions sino-américaines et quel impact cette situation a-t-elle sur Taïwan, autre enclave démocratique dans le monde chinois. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Jean-Pierre Cabestan qui est avec nous en direct depuis Hong Kong. Bonjour Jean-Pierre Cabestan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à l'Université Baptiste de Hong Kong, directeur de recherche au CNRS et chercheur associé à Asia Centre. Et puis vous avez signé, c'était il y a 2 ans chez Gallimard, Demain la Chine, démocratie ou dictature pour l'interrogation. Pour nous accompagner également Sébastien Collin, bonjour.
Bonjour.
Maître des conférences Sébastien Collin en géographie à l'INALCO. Vous avez été chercheur détaché au Centre d'études françaises sur la Chine contemporaine à Hong Kong de 2014 à 2018. Donc c'est évidemment un territoire que vous connaissez très bien. Vous aviez signé, vous, il y a quelques années maintenant, la Chine puissance mondiale. D'abord, peut-être un premier mot l'un et l'autre sur la détermination de ces manifestants. Parce que pendant un temps, il y a eu évidemment une forme de mise en veille de ces mobilisations dues à la crise du Covid-19. Certains se sont demandé si les manifestations reprendraient. Et en réalité, elles ont repris très vite, dès début mai, alors que les centres commerciaux rouvraient tout juste leurs portes. Et elles se poursuivent alors que les restrictions sanitaires sont toujours en vigueur. Ça fait maintenant plus d'un an. On va commencer avec vous, Jean-Pierre Cabestan, que ces mobilisations s'organisent depuis mars 2019. Dans la lignée, on s'en souvient de ce projet de loi sur l'extradition qui a été abandonné depuis. Depuis quelques jours, on a une nouvelle loi qui provoque des tensions, mais pourtant, on sort dans la rue, on brave les violences policières, sans compter évidemment les conséquences économiques et sociales qui commencent à se faire sentir pour la population. Il y a quelque chose d'absolument incroyable dans la détermination, dans la motivation des Hongkongais. Ça en dit long sur l'urgence à défendre ce modèle, Jean-Pierre Cabestan.
Oui, tout à fait. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que, en fait, il n'y a pas eu encore de mobilisation ou de manifestation contre la loi de sécurité nationale, parce que il n'y a pas eu de manifestation autorisée depuis l'irruption de la pandémie Covid-19 à Hong Kong en février. Vous avez eu, il y a une semaine ou deux, des manifestations contre la loi relative à l'hymne national, hein, qui pénalise toute insulte à l'hymne national. Mais ce sont des manifestations qui ont impliqué très peu de manifestants, quelques milliers au plus. Et comme on ne connaît pas le contenu de la loi de sécurité nationale et que les restrictions en termes de distanciation sociale restent en place, c'est très difficile d'évaluer l'opposition à cette loi de sécurité nationale. Le premier test, à mon avis, il pourra avoir lieu le 1er juillet, parce que c'est la date de l'anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997. Et c'est un jour où, traditionnellement, les forces démocratiques se mobilisent et organisent une longue marche dans Hong Kong. D'abord, on verra si elle sera autorisée. Et puis ensuite, si beaucoup de gens utiliseront cette journée de protestation pour justement manifester leur inquiétude ou leur opposition à ce projet de loi sécurité nationale.
Sébastien Collin, sur quoi pariez-vous justement pour cette future possible grande manifestation du 1er juillet? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a en réalité un mouvement qui est juste mis en veille et qui n'attend qu'une opportunité, une fenêtre pour se réveiller, ou on est en réalité quand même devant quelque chose qui ressemble à un mouvement à bout de souffle?
Alors, c'est... Il y a sans doute un peu des deux. Ce qu'on peut mentionner, effectivement, c'est que pour l'heure, il n'y a pas eu de grande mobilisation, comme Jean-Pierre Cabestan vient de le souligner, par rapport à cette loi sur la sécurité nationale, et qu'on verra effectivement dans les semaines qui viennent si les manifestations peuvent reprendre. Le passé nous montre qu'à chaque fois qu'il y a eu une tentative de la part de Pékin de reprendre en main sur le plan législatif le territoire hongkongais, il y a eu des manifestations et une mobilisation. Donc le dernier exemple, bien sûr, ce sont les grandes manifestations l'année dernière contre la loi qui devait faciliter donc les extraditions et qui a ensuite été abandonnée. Et donc on peut imaginer qu'effectivement la mobilisation reprenne. Maintenant, dans quelle mesure elle sera d'une ampleur aussi importante par rapport à l'année dernière, ça reste un point d'interrogation. Y a-t-il un mouvement à bout de souffle? Je n'en suis pas certain, même si celui-ci est sans doute divisé. Une partie de la jeunesse quand même semble déterminée, mais bien sûr dans des proportions qui ne constituent pas la majorité de la population hongkongaise, me semble-t-il du moins.
Jean-Pierre Cabestan, la question des violences policières, parce qu'il y a un certain nombre d'observateurs qui considèrent que ces dernières semaines, il y a eu une montée en puissance de la réponse policière, voire même qu'il y a eu des changements de stratégie chez les policiers qui visiblement utilisent maintenant ce qu'on appelle la stratégie de la NAS pour faire des arrestations massives, que les actes de violence et autres intimidations, notamment à l'égard de journalistes par exemple, ont augmenté. Est-ce que vous avez constaté, vous effectivement, Jean-Pierre Cabestan, une montée en puissance de ces violences policières? Et qu'est-ce que ça pourrait produire? Parce que évidemment, on se dit que en retour, on pourrait avoir une forme de glissement, de radicalisation, même si le terme est toujours un peu compliqué, Des franges les plus déterminées chez les manifestants. Alors, à la fois sur les violences policières et sur ce que pourrait produire l'exacerbation de ces violences.
Oui, vous avez raison de souligner qu'il y a eu un changement de stratégie de la police qui utilise des méthodes beaucoup plus musclées, hein, beaucoup plus préemptives d'ailleurs, pour arrêter le plus de manifestants possible. Lorsqu'une manifestation a lieu de manière comme ça sporadique, non autorisée, et ça a eu un certain effet puisque ça prenait lieu à l'arrestation de plusieurs centaines de jeunes, y compris des écoliers d'ailleurs, en uniforme scolaire. Enfin, c'était assez
donc
incroyable.
Des mineurs,
ouais. Des filles de 12 ans qui ont été embarquées dans des paniers à salade. Enfin, c'était scandaleux. C'était honteux d'ailleurs de la part des autorités hongkongaises d'opérer comme ça, mais c'est une nouvelle stratégie qui vise à dissuader les jeunes de participer à des manifestations. La question, en fait, elle est plus large parce qu'elle pose le problème de l'autorisation des manifestations, je dirais, pacifiques, organisées traditionnellement par les mouvements que ce soit les partis d'opposition comme le Parti civique ou le Parti démocratique ou d'autres organisations ONG. Et on peut penser que ces manifestations pacifiques seront à nouveau autorisées, mais c'est difficile de savoir dans quelle mesure, et surtout si ces jeunes s'agrègent à ces manifestations et acceptent la stratégie pacifique ou au contraire veulent tirer la manifestation vers l'affrontement avec la police. Et là, c'est un peu l'incertitude. Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, vous avez une jeunesse assez déterminée, qui est, comme le disait Sébastien, divisée. Mais il y a eu un moment d'unité quand même que je voudrais rappeler. C'est le 4 juin, avec la commémoration qui était interdite, qui a finalement été autorisée, tolérée, je dirais, pas autorisée, tolérée par la police, qui a laissé les gens rentrer par petits paquets sur ce grand parc qu'on appelle Victoria Park, où vous avez une cérémonie de commémoration qui était relayée par toutes les télévisions du monde, et c'est une des raisons pour lesquelles la police n'est pas intervenue. Ça aurait ajouté à l'image négative de Hong Kong à l'extérieur. Et donc, maintenant, ça dépend aussi des courants traditionnels de l'opposition démocratique et qui, s'ils parviennent à reprendre la main sur le mouvement et organiser la protestation contre la loi de sécurité nationale, peut-être que là, les choses pourraient évoluer dans un sens plus pacifique, mais c'est pas certain.
On reviendra sur ces manifestations du 4 juin dernier et plus généralement sur cette mémoire en danger de Tiananmen. On en parlera tout à l'heure avec Michel Bonin. Sébastien Collin, sur cette question des violences policières, sur l'évolution aussi de ce mouvement, parce que on dit un mouvement au singulier comme s'il était parfaitement uni. En réalité, on est très loin de cette situation. On a plusieurs courants, des fragmentations, des différences s'agissant des stratégies à adopter. On n'a pas un bloc d'opposition uni. Sébastien Collin.
Non, effectivement. Alors, pour revenir sur la question des violences policières, il faut noter également que ces derniers mois, les autorités hongkongaises ont augmenté les effectifs de la police et qu'il y a eu une augmentation assez importante de son budget. Donc, ça témoigne de la part des autorités locales, effectivement, une vision très sécuritaire pour justement s'opposer à ces différents mouvements. Maintenant, sur les questions de division, il y a effectivement au sein du large mouvement d'opposition à ces différentes lois, les partis démocrates traditionnels, institutionnels, que Jean-Pierre vient de citer à l'instant. Et puis, vous avez toute une série de mouvances un peu plus, si je puis dire, virulentes dans leurs revendications. Il y a eu l'émergence de ce qu'on appelle le mouvement localiste à Hong Kong, hein, qui a progressivement émergé depuis le début des années 2010 et qui s'est affirmé au moment du mouvement des parapluies. Et donc, vous avez là un mouvement qui, effectivement, est beaucoup plus radical dans ses revendications, qui veut couper Hong Kong de la Chine par le biais de l'indépendance, et puis qui, par exemple, aussi critique les commémorations du 4 juin et des événements de Tiananmen, considérant par exemple que ça concerne l'histoire de la Chine continentale et que Hong Kong n'est pas directement concerné ou ne doit pas être directement concerné par ça. Donc,
Quel est le poids politique, Sébastien Collin, de ce mouvement localiste? Il va y avoir des élections, et je vous donne la parole, Jean-Pierre Cabestan, hein. Il va y avoir des élections en septembre prochain. Qu'est-ce qu'il représente, ces forces pro-démocratie? Est-ce qu'elles ont une chance de l'emporter? Enfin, comment se profilent les choses, Sébastien Collin?
Alors, les mouvements les plus localistes, enfin qui prônent le localisme ou l'indépendance, politiquement, effectivement, restent des mouvements, si je puis dire, marginaux, en tout cas plus faibles, me semble-t-il, hein, que les partis démocrates traditionnels. Mais ils ont un temps, si vous voulez, usé d'un contexte où les partis démocrates traditionnels aussi ont été perçus comme ne pouvant plus constituer une solution pour s'opposer à Pékin, parce que depuis trop longtemps dans le jeu politique, il y a eu ce qu'on a appelé une sorte de fatigue du mouvement démocrate, et donc ces nouveaux mouvements qui sont apparus dans la foulée ou parallèlement au mouvement des parapluies en 2014 ont proposé en fait une sorte d'alternative. Maintenant, il y a effectivement un front commun contre lequel tous ces mouvements s'opposent, hein, ce sont ces différentes lois édictées par Pékin, et c'est ce qui peut constituer effectivement une sorte de ligne de front commun qui pourrait déboucher sur un certain nombre de victoires politiques plus institutionnelles.
Jean-Pierre Cabestan, vous êtes d'accord? On pourrait avoir la construction d'un front d'opposition.
Un mot sur le mouvement localiste qui est apparu dans les années 2000, comme l'a rappelé Sébastien. Un des critères d'évaluation, c'est la dernière élection législative de 2016. Il y en aura une autre là en septembre prochain 2020, donc il y a des élections tous les 4 ans. Et cette élection de 2016 est intéressante parce que les mouvements localistes dans leur ensemble ont obtenu environ 18% des voix. Maintenant, le mouvement localiste n'est pas entièrement en faveur de l'indépendance. Vous avez un tiers, grosso modo, hein, qui est en faveur vraiment d'une indépendance complète de Hong Kong par rapport à la Chine. Vous avez un tiers qui est en faveur d'une espèce d'autodétermination qui n'est pas vraiment une indépendance. Et puis les autres qui sont beaucoup plus en faveur d'un localisme culturel, identitaire, pentou, comme on dit en chinois, mais pas indépendant de la Chine. Donc vous voyez, c'est un mouvement qui lui-même est fragmenté et qui représente une minorité de l'opposition démocratique. Maintenant, comme le disait Sébastien, c'est qu'il y a eu un épuisement, une espèce d'absence d'innovation et d'idées politiques au sein des courants démocratiques les plus traditionnels, le Parti démocrate notamment et le Parti civique. Et donc vous avez un fossé de génération qui a émergé vraiment au moment du mouvement des parapluies en 2014 et qui oppose d'un côté des politiciens, des hommes politiques ou des femmes politiques plus traditionnelles avec une jeunesse qui est beaucoup plus radicale. Et la vraie question, c'est de réconcilier les deux et de faire en sorte qu'il y ait une forme d'unité face à ces empiétements répétés de Pékin. Il y a eu une unité qui a été préservée pendant une grande partie du mouvement de protestation contre la loi d'extradition l'an dernier, jusqu'à l'automne. Mais à partir de septembre-octobre, lorsque le mouvement s'est vraiment radicalisé, devenu beaucoup plus violent, s'en est pris vraiment aux policiers physiquement, là, le courant plus traditionnel les a quittés. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des élections quand même fin novembre, des élections, ce qu'on appelle des district boards, c'est-à-dire des quartiers, des comités de quartier de Hong Kong, à la fin novembre, qui ont été une victoire inattendue et massive pour le courant démocrate. Donc, toutes tendances confondues, localistes et démocrates non traditionnels. Maintenant, traditionnellement, les pan-démocrates, ce qu'on appelle le camp pan-démocrate, par rapport au camp pro-establishment à Hong Kong, obtient 55% des voix à 60% des voix. 57% en novembre dernier. Et on pense qu'aux élections là, qui vont avoir lieu en septembre, ils pourraient obtenir plus, peut-être 60% des voix. Et donc, le vrai enjeu pour ce camp pan-démocrate, qui est dominé par les partis que j'ai indiqués, plus traditionnels, c'est de gagner une majorité des sièges en dépit du caractère faussé de cette élection, puisque vous savez que 40 des 70 sièges sont élus directement dans les circonscriptions géographiques, donc par les électeurs, et que les 30 autres sont élus par des collèges professionnels qui, évidemment, donnent l'avantage au camp pro-establishment et aux représentants pour Pékin.
Mais Jean-Pierre Cabestan, est-ce que le mouvement localiste, en gros la frange la plus pro-indépendance, va avoir des représentants lors de l'élection de septembre prochain? Si on regarde par exemple, nous, une figure qu'on connaît bien ici, c'est Joshua Wong, qui est l'une des figures de pro du mouvement des parapluies, qui a fait de la prison pendant plusieurs mois. Lui, par exemple, il ne peut pas se présenter aux élections.
Non, à mon avis, non seulement ils ne pourront pas se présenter, mais il est très possible qu'une fois la loi de sécurité nationale introduite, promulguée, leur organisation sera démantelée et eux feront l'objet de poursuites judiciaires et pourraient terminer en prison. Et c'est ça un des aspects les plus inquiétants de cette loi, c'est que se prononcer en faveur de l'indépendance va devenir non seulement illégal, mais un crime. pénalement réprimé. C'est le projet. Comme si vous disiez aux Catalans, maintenant, tous ceux qui sont pour l'indépendance devront aller en prison. Ouais. Ou aux Écossais, ou aux Taïwanais, en l'occurrence. On va parler de Taïwan tout à l'heure. Ça veut dire que tous les gens qui sont pour l'indépendance sont susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales et se trouver en prison pour, en fait, délit d'opinion. Pas seulement acte en faveur de l'indépendance. Ouais. Et c'est ça, un des grands dangers de cette loi de sécurité nationale.
On imagine, Sébastien Collin, que c'est précisément la stratégie de Pékin. Si on a mis dans les tuyaux cette loi, elle n'est pas encore votée. Elle le sera, je crois, à la fin du mois d'août, du côté du Parlement chinois.
Probablement avant. Hein.
Peut-être avant. Sébastien Collin, l'objectif, c'est précisément ça. C'est de mater cette opposition à Hong Kong.
Oui, bien entendu, c'est un outil que Pékin utilise effectivement pour pouvoir mobiliser, enfin tout du moins faire en sorte que les manifestations cessent. Et bien évidemment, une des très grandes inquiétudes de la part des Hongkongais, c'est que cette loi soit utilisée pour interdire toutes les manifestations, quelles qu'elles soient, et bien évidemment, comme Jean-Pierre le soulignait, permettre l'arrestation d'un certain nombre de personnes. Donc il y a ici un geste de la part de Pékin qui, finalement, si je puis dire, essaye d'apporter une nouvelle solution plus ferme par rapport aux échecs précédents, parce que il y a, je pense, du côté des autorités centrales chinoises, cette vue que Carrie Lam a échoué. Elle a échoué d'une part avec la fameuse loi contre l'extradition l'année dernière, qui a finalement été abandonnée. Et puis les autorités hongkongaises n'ont jamais réussi à mettre en place, ou en tout cas à mettre en œuvre, l'article 23 de la mini-constitution, enfin de la constitution de Hong Kong, hein, de la fameuse Basic Law, qui est justement un article qui interdit les actes de trahison, de sécession, de sédition et de subversion. Et en fait, cette loi de sécurité nationale proposée par Pékin vient en fait remplacer plus ou moins cet article 23 qui n'a jamais pu être mis en place parce qu'il a suscité d'importantes mobilisations et manifestations sur les territoires hongkongais. Et tout l'enjeu, si cette loi est adoptée, sera de voir dans quelle mesure elle va être introduite dans la politique locale à Hong Kong, puisqu'il est probable que Pékin contourne la Constitution en plaçant cette loi dans le cadre de l'annexe 3 qui concerne la défense et la diplomatie et ou sur lesquelles Pékin a la main. Donc il y aura aussi tout un enjeu juridique qui va se poser dans les semaines et mois à venir pour voir comment effectivement cette loi pourra être appliquée, mise en place au cas où elle serait adoptée. Et bien évidemment aussi la prise en considération des éventuelles mobilisations que ce processus est susceptible de susciter.
Jean-Pierre Cabestan, sur ce fameux article 23, est-ce que je dois comprendre qu'en réalité, du point de vue de la Chine, on considère que ce fameux article de la Basic Law n'a jamais été mis en œuvre alors que c'est ce qui était prévu, et que donc, par conséquent, d'une certaine manière, on n'a pas respecté les engagements qu'avaient pris les uns et les autres au moment de la rétrocession du territoire? Est-ce que finalement c'est ça, ce raisonnement-là que fait Pékin pour justifier cette loi sur la sécurité nationale?
Alors, il est certain que cette loi de sécurité nationale devait tôt ou tard être introduite, promulguée. C'est dans la loi fondamentale de Hong Kong, article 23. Oui. Mais cette loi devait être promulguée par Hong Kong, pas par Pékin. Alors, Pékin justifie aujourd'hui la décision qu'il a prise de demander au comité permanent de l'Assemblée populaire nationale à Pékin de promulguer cette loi. Il a justifié cette décision en disant que c'est devenu impossible à Hong Kong de passer cette loi pour deux raisons. En raison, d'une part, du mouvement de protestation de l'an dernier qui a bloqué l'adoption de la loi d'extradition, et deuxièmement en raison des blocages permanents ou récurrents au Parlement, l'ECCO, le Legislative Council, où l'opposition ne jouit pas d'une majorité, mais a les moyens juridiques de faire ce qu'on appelle en anglais du filibustering, donc de l'obstruction, ou et de retarder ou de pendant longtemps l'adoption d'une telle loi.
C'est un argument qui est valable.
Et alors, ce que craignait aussi Pékin, c'est donc c'est parce qu'une fois que la loi est promulguée ou disons préparée à Pékin, ils pensent qu'ils sont à l'abri de toute protestation directe, puisque s'opposer à Pékin, c'est plus difficile que s'opposer à Carrie Lam pour les manifestations de Hong Kong. Maintenant, je pense que Pékin a violé la loi fondamentale en décidant de promulguer lui-même cette loi. Et en plus, Pékin a ajouté des crimes aux crimes évoqués par Sébastien, de subversion, sécession. Il a ajouté le terrorisme, il a ajouté différentes formes d'ingérence étrangère qui sont devenues qui vont être criminalisées. Et donc, c'est une loi dont le cadre d'action et l'impact sera beaucoup plus large.
Sébastien Collin, je continue, je me fais un peu l'avocat de Pékin, il faut bien qu'il y en ait un quand même. Quand même, l'argument selon lequel, d'abord, le Parlement est totalement bloqué est assez vrai. C'est ce qu'on voit depuis des semaines, voire des mois du côté de Hong Kong. Et l'argument selon lequel Hong Kong n'est pas en capacité de mettre en œuvre ce fameux article 23 est vrai aussi, puisque par le passé, on a essayé de faire passer justement cette loi en vain. Notamment en 2003, ça avait engendré une forte crise politique. Donc, les arguments de Pékin sont pas complètement fallacieux, Sébastien Collin. Non, mais je fais un peu de la provocation, mais quand même, je me mets à la place de Pékin.
Oui, bien évidemment, du point de vue de Pékin, du point de vue du Parti communiste chinois, il y a des arguments pour justifier la mise en place de cette loi, et ce sont bien évidemment ces arguments que vous avez évoqués. Et c'est ce que je disais à l'instant, cette vision que, effectivement, au niveau des autorités hongkongaises, il y a eu une incapacité à mettre en œuvre ce fameux article 23, et que maintenant, les autorités centrales se devaient de prendre la main dans un contexte particulier aussi, depuis quelques années, qui est celui, bien évidemment, d'une confrontation avec les États-Unis. Et d'ailleurs, ce que l'on peut noter, c'est que Pékin justifie également cette loi sur la sécurité nationale du fait des ingérences étrangères sur le territoire hongkongais. Et donc là, on a effectivement une manifestation de ces oppositions à l'échelle internationale. Et ce qu'on a pu voir aussi dans les différents discours au cours de la lutte contre l'épidémie du Covid-19 accentue encore plus ce phénomène. Mais Pékin a ses arguments, bien évidemment, et qui sont mais qui, d'un certain point de vue aussi, sont dommageables, parce que je crois qu'à travers ça, malheureusement, le territoire hongkongais perd une grande partie de sa spécificité, bien évidemment. Et historiquement, Hong Kong a toujours été ce territoire d'intermédiaire, si je puis dire, entre le continent chinois et l'extérieur. Et là, en fait, on a des mesures plus strictes de reprise en main qui vont faire perdre toutes ces spécificités au territoire hongkongais.
Jean-Pierre Cabestan, regardons ce qu'il y a justement derrière cette formule d'ingérence étrangère que l'on entend du côté de Pékin. Il y a deux grandes choses à y voir. D'abord, des annonces du côté de l'administration américaine de mesures de rétorsion. J'aimerais savoir ce qu'il en est exactement, qu'est-ce qui est envisagé, envisageable et avec quel type d'effet. Et puis, il y en a une autre dont on a pas mal parlé ces derniers jours, c'est cette annonce du Premier ministre britannique, Boris Johnson. Rappelons que le territoire est une ancienne colonie britannique, qui laisse entendre qu'il pourrait offrir un accès à la Grande-Bretagne aux 350 000 Hongkongais qui détiennent un passeport britannique d'outre-mer. En réalité, c'est peut-être beaucoup plus, peut-être 2 millions et demi de personnes qui pourraient être éligibles à cette option. Sur les deux réactions, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous semble de nature à changer quelque chose, à mettre la pression sur Pékin ?
Si vous me permettez, je voudrais rajouter un mot sur la loi de sécurité nationale en indiquant que c'est normal pour tout État, tout gouvernement, mettre en place une loi de sécurité nationale. Le vrai problème, c'est qu'on a affaire à un État non démocratique, la Chine continentale, qui a une définition de la subversion ou même du terrorisme ou des ingérences étrangères qui ne sont pas compatibles avec des principes démocratiques. Être en faveur de l'indépendance, c'est pas un crime, à mon avis. Est-ce que lancer des cocktails Molotov contre la police, c'est du terrorisme ? C'est peut-être un acte violent, mais chez nous, c'est pas du terrorisme. Est-ce que subventionner des activités académiques ou même politiques de la part de d'organisations non gouvernementales étrangères, c'est d'une ingérence étrangère ? Hong Kong est une place cosmopolite, hein, c'est une société ouverte, dans le sens de Hayek, et une société ouverte, une société qui accepte de faire partie de la communauté internationale. Le problème pour la Chine populaire, et c'est ce qui explique la réaction extérieure à laquelle je vais venir tout de suite, c'est qu'elle voit dans Hong Kong une base de subversion. Elle voit dans Hong Kong ce qu'elle appelle une tête de pont, ils l'ont dit récemment, une tête de pont destinée à déstabiliser la Chine. Parce que les ingérences étrangères ont favorisé, ont nourri, abreuvé des forces et renforcé des courants anticommunistes qui veulent déstabiliser la Chine. Le problème, c'est qu'Hong Kong a toujours été anticommuniste. C'est dans l'ADN des Hongkongais d'être anticommunistes. C'est des réfugiés qui ont quitté la Chine populaire sans un sou, qui ont été chassés par les communistes, qui ont pris le pouvoir. Donc comment voulez-vous que les Hongkongais soient pro-communistes ? C'est impossible. Donc venons-en aux sanctions maintenant. Les ingérences étrangères...
Pardon, mais ça me fait penser, et après je vous entends sur les sanctions, mais il y a quand même une question qui me taraude, parce que vous nous dites, du côté de Pékin, on se dit Hong Kong c'est très dangereux parce que c'est une tête de pont, que ça pourrait être le début d'une forme de démocratisation du régime chinois.
C'est ce que dit Pékin. Hein.
Oui, c'est ce que dit Pékin. Et en même temps, je ressors l'argument que vous citiez dans votre dernier ouvrage, Demain la Chine, qui est c'est qu'en réalité, il y a chez les élites chinoises une conviction très profonde et très partagée qu'en réalité, le système actuel est le meilleur système. Donc, finalement, de quoi a-t-on peur ? Puisqu'on est persuadé qu'on a là en place le meilleur des systèmes. Pourquoi a-t-on peur de la démocratie ?
Bah, c'est qu'ils ne sont peut-être pas si sûrs d'eux de la situation en Chine et de ce que pensent les Chinois. Je pense que pour l'instant, ils n'ont pas trop de soucis à se faire, mais que progressivement, comme je l'ai dit dans la conclusion de mon livre, c'est que vous avez quand même de bonnes chances pour que les idées démocratiques, les valeurs démocratiques continuent de se répandre en Chine. Ouais, et qu'à terme, la démocratie vienne en Chine, un petit peu comme à l'époque de la fin de la dynastie Manchou, lorsque ceux qui voulaient établir une république en Chine, dont Sun Yat-sen, se réfugiaient à Hong Kong ou à Hawaï ou au Japon, utilisaient les bases étrangères, les communautés de Chinois d'outre-mer, pour essayer d'influencer les affaires en Chine et de faire évoluer le régime vers plus de démocratie. Donc on en revient au même combat qu'il y a 100 ans, hein, contre une Chine qui est plus une Chine impériale, mais une Chine communiste, mais enfin qui est aussi un peu impériale.
Sur les mesures de rétorsion américaine et l'offrande de l'exil du côté britannique, et puis ensuite on fera réagir
sur la Sacola. Le problème des sanctions américaines, c'est qu'on n'en connaît pas le contenu, et que ça peut être une montagne qui accouche d'une souris, finalement, à mon sens. Parce que je ne pense pas que l'administration de Trump va prendre des sanctions contre Hong Kong à proprement parler, notamment mettre fin au régime particulièrement favorable concernant les droits de douane, il n'y a pas de droits de douane, au régime favorable concernant les visas, les Hongkongais qui vont aux États-Unis n'ont pas besoin de visa, etc. Donc je crois que là-dessus, ça va être des sanctions assez ciblées qui vont être probablement décidées une fois que la loi de sécurité nationale aura été promulguée, qu'on connaîtra un peu mieux le contenu de cette loi. Concernant les Britanniques, à mon avis, c'est une offre assez hypocrite. Comme les Grande-Bretagne n'ont aucun moyen de pression sur la Chine, ils offrent une espèce de exit strategy, comme on dirait en anglais. Vous savez, c'est dans le livre de Hirschman, vous avez trois possibilités. Soit vous partez, soit vous révoltez, soit vous faites allégeance. Et ce que proposent les Britanniques, c'est de partir. À mon avis, c'est pas la solution pour les Hongkongais. Il faut que les Hongkongais restent ici et résistent s'ils veulent que Hong Kong conserve un semblant d'autonomie et surtout son mode de vie et ses libertés publiques. Donc c'est une promesse un peu de gascon ou d'anglais, dans le sens où peu de gens vont être intéressés à l'idée d'aller en Grande-Bretagne. Si les Hongkongais qui ont voulu partir sont peut-être déjà partis, mais ils ne sont pas partis en Grande-Bretagne, ils sont partis au Canada, en Australie, dans les pays où le niveau de vie est supérieur, où les qualités de vie est meilleure. À mon avis, c'est une offre qui permet de se donner bonne conscience, mais je suis un peu brutal là-dessus, parce que je trouve que c'est pas une solution à vraiment viable pour les Hongkongais, mais bon, c'est peut-être mieux que rien. En tout cas, ça lui permet de dire quelque chose.
Sébastien Collin.
Par rapport aux actions et aux mesures que peuvent prendre éventuellement les puissances occidentales, je pense également qu'elles ne peuvent être que mesurées et ciblées et que la marge de manœuvre, de toute façon, elle est très faible. De ce point de vue-là, donc on a des condamnations de principe dans les discours, mais je ne pense pas que on aura une application de mesures très fortes à l'encontre du territoire hongkongais.
On est avec vous, Sébastien Collin, et vous, Jean-Pierre Cabestan, dans cette série consacrée aux colères sociales aujourd'hui du côté de Hong Kong. Et vous le disiez tout à l'heure, le 4 juin dernier, les Hongkongais avaient prévu de se rassembler pour commémorer les événements de Tiananmen, comme ils le font depuis plus de 30 ans maintenant, sauf que cette année, pour la première fois, les autorités ne les ont pas autorisées, invoquant le risque du Covid, mais les manifestations ont quand même eu lieu. On va en parler dans un instant.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Je suis ici parce qu'aujourd'hui pourrait bien être la dernière chance de commémorer le 4 juin à Hong Kong. Si nous ne sortons pas maintenant dans la rue, je crains qu'il n'y ait pas de prochaine occasion.
Voilà, malgré les barrières installées autour du parc Victoria, des gens s'y sont rendus, bougies à la main, pour rendre hommage aux victimes de cette répression sanglante menée par l'armée chinoise. Bonjour Michel Bonin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien, directeur d'études à l'HESS. Pour la première fois depuis 30 ans, les autorités hongkongaises ont interdit les rassemblements en hommage aux victimes de Tiananmen. Comment vous interprétez cette interdiction? Est-ce que vous diriez qu'il y a l'ambition de mettre aujourd'hui un terme à cette exception qui permettait aux Hongkongais de faire vivre ce souvenir?
Oui, je pense que là, il y a eu un... Bon, la pandémie a donné une bonne excuse pour interdire cette veillée aux chandelles qui est traditionnelle depuis donc 30 ans, plus de 30 ans maintenant, c'était la 31e année. On a vu que les Hongkongais ne se sont pas laissés faire et l'Alliance pour le soutien au mouvement démocratique chinois n'a pas appelé à aller contre, mais à demander aux gens de manifester en tenant une bougie là où ils le pouvaient, et on dit qu'eux ils seraient quand même dans le parc Victoria. Et en fait beaucoup de gens sont venus, et finalement cette veillée a quand même eu lieu, même s'il y a eu évidemment beaucoup moins de monde que l'année dernière. Voilà, donc je pense que et parmi les gens qui sont venus, j'ai vu pas mal d'interviews de gens qui disaient mais on veut absolument venir parce qu'on ne sait pas si l'année prochaine ce sera pas interdit à cause de la loi sur la sécurité nationale. Donc effectivement, de tout ça, on est dans une situation extrêmement tendue, extrêmement grave à Hong Kong, et bon, je crois que là c'est un des éléments de tout ce qui est en train de se passer, avec la volonté de Pékin de reprendre la main sur Hong Kong, quitte à violer la loi fondamentale.
Que représente Michel Bonin pour ces Hongkongais les événements de Tiananmen? L'année dernière, dans une tribune au Monde, vous parliez d'un non-événement fondateur. Qu'est-ce que vous entendiez par là?
Oui, quand je disais ça en pensant plutôt à la Chine continentale et de façon générale, pas uniquement pour Hong Kong, mais je pense que effectivement, c'est un non-événement fondateur, parce que c'est un événement fondateur, c'est vraiment un tournant de l'histoire de la Chine contemporaine, en tout cas du parti de la République populaire de Chine, et donc parce que ça a bloqué tout un espoir qui existait d'une évolution plus ou moins libérale et démocratique de la Chine, et que ça a éliminé toute une fraction du Parti communiste chinois lui-même, qui a été mis sur la touche ou mis en prison. Et donc on est dans une situation nouvelle. Finalement, donc ça a mis la Chine dans une situation où il n'y avait plus vraiment aucun espoir de démocratisation. Et ensuite, je dis que c'est un non-événement parce que, donc, c'est un événement fondateur, mais c'est un non-événement puisque le parti a tout fait pour que la mémoire de ce qui s'était passé soit effacée. Et ça, c'est quelque chose d'absolument, je dirais presque unique au niveau de l'histoire mondiale. Hein, c'est-à-dire de pouvoir en faire totalement disparaître un événement aussi important qui a été vu dans le monde entier par des milliards de gens, c'est assez extraordinaire. Et c'est pour ça que je dis dans mon papier que 1984 est la seule solution, est la seule réponse possible à 1989. C'est-à-dire que on est dans une situation où maintenant il faut un contrôle absolu de toute la parole, de tous les discours, de tous les médias pour pouvoir effacer de l'histoire, faire tomber dans le trou de l'oubli un événement qui est un événement évidemment qui très dommageable pour l'image du parti. Donc c'est ce qui est en train de se passer.
Mais là, il y a un double, Michel Bonnin, il y a un double mystère autour de cet événement et de la mémoire de l'événement. Le premier mystère, il est lié à la raison pour laquelle en 97 on permet aux Hongkongais de commémorer cet événement alors même qu'on est dans ce qu'il y a de plus tabou, c'est le tabou ultime, Tiananmen. Comment se fait-il qu'en 97 on laisse faire, on permet justement ces réunions et de commémorer ce souvenir, et comment se fait-il, deuxième mystère, qu'on ait fait marche arrière? Qu'est-ce que ça représente de si grave pour que on veuille annihiler totalement, éliminer totalement ce souvenir?
Oui, alors donc pour la première question, pourquoi est-ce qu'en 97 ça a été accepté? C'est parce que c'était quelque chose qui existait depuis 1990, c'est-à-dire qu'il y a eu immédiatement, dès la première année, l'organisation d'une veillée aux chandelles qui a accueilli beaucoup de monde, peut-être 150 000 personnes, et parce que bon, et donc à l'époque évidemment c'était le gouvernement britannique, colonial qui a laissé faire, et de toute façon il y avait un tel soutien dans la population au souvenir de cet événement que personne ne pouvait s'y opposer. Il faut bien comprendre que le 4 juin c'est quelque chose de qui a été fondamental dans la mentalité de Hong Kong, dans les émotions hongkongaises. Il y a eu donc un soutien énorme de la population au mouvement démocratique de Pékin, et bon, pas seulement de Pékin, de toutes les grandes villes de Chine, mais surtout à Pékin, parce que on était à ce moment-là en train de discuter justement la loi fondamentale. Et donc les gens de Hong Kong se rendaient compte que leur avenir dépendait de ce qui allait se passer à Pékin. Donc ils étaient et il y a eu un soutien à ce mouvement démocratique qui était même présent parmi les gens de gauche à Hong Kong. Les journaux, les médias pro-communistes ont soutenu à fond le mouvement de démocratique de Hong Kong. C'est ce qu'on oublie souvent, hein, et que après le 4 juin, les responsables des journaux, des grands journaux communistes ont été mis à la porte par le parti communiste parce qu'ils refusaient de faire amende honorable. Donc il faut bien comprendre que c'est l'immense majorité de la population de Hong Kong qui a soutenu ce mouvement, parce qu'ils sentaient que c'était la seule chance pour que un pays de système fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'un côté une dictature terrible et de l'autre une démocratie, ce qui ne peut pas évidemment aller dans un pays de système. Il faut qu'il y ait un certain équilibre. Et ensuite, en 97, c'est très simple. Si le nouveau gouvernement de la RAS, de la région administrative spéciale, avait décrété que c'était interdit, ben voilà, dès le début, ils auraient dit que un pays de système n'avait aucun sens. Donc voilà, il fallait montrer qu'on acceptait une certaine différence. Et ça a été accepté, bon gré mal gré, jusqu'à l'année dernière, où il y a eu 180 000 personnes qui étaient présentes, donc ça a été un grand succès aussi. Et le problème, c'est qu'on est maintenant dans une situation, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, où la modération a totalement disparu de la politique étrangère et de la politique de en général du Parti communiste chinois.
Donc, oui, évidemment, il y a une rupture avec l'arrivée de Xi Jinping sur cette question, comme sur bien d'autres réactions. Et je vous demanderai peut-être une réaction relativement courte pour qu'on puisse passer ensuite à Taïwan pour accueillir Françoise Mangin. On va commencer avec vous, Jean-Pierre Cabestan. Est-ce qu'il est imaginable qu'un jour Pékin reconnaisse la répression Tiananmen, ou c'est un tabou qui est trop fort, voire même carrément un enjeu de survie pour le régime ?
Oui, je crois que c'est un enjeu de survie pour le régime. Alors peut-être que je suis pessimiste, mais je pense que le jour où Pékin, le Parti communiste chinois, justement acceptera de renverser les verdicts et de reconnaître les crimes qu'il a commis en 89, on ira vers un changement de régime. On ira vers un autre parti communiste, un parti communiste qui acceptera l'irruption d'autres forces politiques et donc une forme de démocratie et donc un changement de régime, à mon avis. Je vois pas ce régime de parti unique à l'avenir accepter de vraiment réviser sa position sur Tiananmen.
Sébastien Collin, vous partagez cette position ?
Oui, complètement, oui, bien sûr. Je vois pas du tout le Parti communiste chinois aller dans ce sens. D'autant plus et encore plus depuis quelques années où il y a effectivement eu encore une inflexibilité encore plus accentuée sur un certain nombre de questions propres à la souveraineté territoriale et à la lutte contre la dissidence et la subversion. Donc, je vois pas comment effectivement le Parti communiste chinois pourrait réviser sa position dans les années qui viennent. Et donc c'est effectivement une question de survie. Ça fragiliserait bien évidemment sa puissance, à mon sens.
Merci beaucoup en tout cas Michel Bonin, qui est avec nous par téléphone, qui est historien, directeur d'études à l'EHESS. Alors que Pékin voudrait appliquer son fameux principe un pays deux systèmes à Taïwan, la manière dont celui-ci est mis en œuvre à Hong Kong effraie évidemment les Taïwanais. D'ailleurs, leur crainte de subir le sort des manifestants de la région administrative spéciale les a conduits à voter massivement, plus de 57% en janvier dernier, pour la présidente démocrate sortante, Tsai Ing-wen.
Depuis janvier, Taïwan a impressionné la communauté internationale à deux reprises. D'abord avec notre élection démocratique, ensuite pour notre travail de prévention de l'épidémie. Nos efforts couronnés de succès ont mis Taïwan sous les projecteurs grâce à la couverture de nombreux médias à travers le monde.
Voilà, extrait de son discours d'investiture pour son second mandat, la présidente Tsai Ing-wen, s'est montrée extrêmement déterminée à préserver l'indépendance de Taïwan, appelant Pékin à accepter la cohabitation avec un Taïwan démocratique. Bonjour Françoise Mangin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice de recherche au CERIL, Centre de Recherche Internationale de Sciences Po. Aujourd'hui, cette présidente taïwanaise, elle jouit d'une popularité inédite, plus de 70% d'opinions favorables. Alors qu'il y a quelques mois, on en aurait parlé l'année dernière, ou un peu plus, elle était à la peine. Sa reconduction était très incertaine, les résultats économiques n'étaient pas très bons. Est-ce que, en réalité, sa reconduction, sa popularité d'aujourd'hui, elle repose uniquement ou quasi sur cette posture très ferme vis-à-vis de Pékin et aussi le contexte de tension à Hong Kong qu'on décrit depuis tout à l'heure avec Sébastien Collin et Jean-Pierre Cabestan?
Oui, il est certain que les manifestations à Hong Kong et la répression policière dont elles ont fait l'objet a contribué à la réélection avec un score très confortable, 57% des voix, de la présidente sortante en janvier dernier. Mais ça n'est pas le seul facteur. Il y a eu le fait que l'économie est allée de mieux en mieux au cours de l'année 2019, les tensions commerciales entre la Chine et Hong Kong qui ont également contribué à cette remontée de l'économie, la loi pour le mariage pour tous. Hong Kong n'est qu'un facteur, mais ça a été certainement, ça a joué dans sa réélection en janvier dernier.
Quelle a été la réaction du côté de Pékin? Ça fait maintenant 6 mois que la présidente taïwanaise a été reconduite. Est-ce qu'il y a eu des pressions et quelles formes ont-elles pris pour accentuer la mainmise sur Taïwan? Mainmise, c'est très exagéré, mais en tout cas, pour exercer davantage encore son influence.
Ces pressions sont constantes depuis son élection en 2016. Pressions militaires qui vont grandissantes. Il y a beaucoup de manœuvres de l'armée chinoise dans le détroit de Formose actuellement, autour de l'espace aérien de Taïwan également. Pressions diplomatiques. La Chine a ravi 7 alliés diplomatiques de Taïwan en 4 ans, ne lui en laissant plus que 15. Des pressions multiformes qui n'ont cessé de croître depuis l'entrée en fonction de Tsai Ing-wen il y a 4 ans.
Françoise Mangin, jusqu'ici, l'influence de Pékin sur Taïwan, elle se faisait par le truchement du parti, le Kuomintang, le KMT. Sauf que électoralement, ce KMT, il est en pleine déroute. Lors de la dernière élection présidentielle, largement perdue par son représentant, Eric Chu, 31% des voix seulement. Il est aussi en déroute du côté des villes. Regardons par exemple les déboires du maire de Kaohsiung, qui est la 3e ville du pays, qui pourrait très bien être destituée très vite par ses administrés. Donc on voit bien que la stratégie qui consistait à utiliser le Kuomintang pour exercer son influence, elle est en train de s'étioler. Dès lors, que peut faire Pékin? Quelle autre stratégie possible?
D'abord, je voudrais dire que le maire de Kaohsiung a été destitué.
Ça y est, c'est fait. Oui. Très bien.
Le Kuomintang est un des plus anciens partis au monde, et c'est un parti qui est quand même encore assez riche et qui a des bases électorales indubitablement. Il est en pleine déroute, mais cette déroute a été favorisée par Pékin en poussant comme candidat à l'élection présidentielle de janvier dernier ce maire de Kaohsiung qui ne pouvait absolument pas faire le poids face à Tsai Ing-wen. Donc, il y a deux scénarios possibles. Soit, effectivement, le Kuomintang va progressivement disparaître de la scène politique taïwanaise, que je ne crois pas. Soit le Kuomintang va progressivement regagner à la marge de ses bases électorales actuelles avec une politique plus modérée, moins favorable à la Chine qu'elle n'a été pendant les 8 ans de présidence Ma Ying-jeou et qu'elle n'aurait été selon le programme promu par ce maire de Kaohsiung, Han Guoyu, qui a été la marionnette de Pékin en fait. Stratégie qui a été totalement contre-productive pour Pékin.
Et vous pensez cette transformation possible du Kuomintang?
Elle est possible dans la mesure où le Kuomintang a toujours été un parti de faction, avec une faction, disons, centriste, qui est favorable à l'indépendance de fait dont jouit Taïwan, et une faction on ne peut pas dire dans le vocabulaire taïwanais plus à droite, mais disons plus en faveur de l'unification. Bien que dans la charte du parti, il est très clair que le Kuomintang est en faveur d'une unification à long terme avec la Chine, avec comme précondition que la Chine se démocratise.
Justement, cette démocratisation du côté de Taïwan, le virage va s'opérer dans les années 80-90. À l'époque, c'est quoi le moteur de cette transformation? Quelle place pour les considérations extérieures, donc liées à la menace que représente tout simplement Pékin? Quelle place pour aussi des considérations plus internes? Revenons un peu en arrière.
Oui, cette démocratisation s'est faite complètement dans la continuité de l'histoire de cette République de Chine réfugiée à Taïwan en 1949. Le point de départ, si on veut, c'est la levée de la loi martiale en 1987. Et à partir de là, un recentrage des institutions qui étaient conçues pour l'ensemble, des institutions dites nationales, centrales, qui étaient conçues pour l'ensemble de la Chine, avec des institutions parlementaires où toutes les provinces de Chine étaient artificiellement représentées, un recentrage de toutes ces institutions sur le seul électorat sous la juridiction effective de Taipei. Mais en raison du refus du Kuomintang de complètement écarter une unification à long terme avec la Chine, et en raison surtout des pressions de Pékin, la constitution de la République de Chine n'a pas été abandonnée, elle a simplement été amendée. Et Pékin, avec une très grande constance, ferait de l'adoption d'une nouvelle constitution à Taïwan un casus belli qui justifierait le recours à la force. Ça n'est pas le seul d'ailleurs.
Et alors pourquoi est-ce qu'en 2016, les Taïwanais votent pour Tsai Ing-wen? Parce que dans un premier temps, on a ce processus de démocratisation, mais en réalité qui est favorable à Pékin, ou en tout cas, on arrive à garder des relations tout à fait bonnes entre Pékin et cette nouvelle Taïwan démocratique. On a des relations commerciales qui sont très poussées, industrielles, tout se passe bien. Qu'est-ce qui fait que tout bascule?
Il y a deux facteurs là qu'il faut évoquer. D'abord, cette démocratisation a été conduite par le président Lee Teng-hui, qui était lui-même un cadre du Kuomintang, technocrate du Kuomintang, mais qui était taïwanais d'origine, qui n'était pas descendant d'une famille venue à Taïwan en 1949, et qui au terme de ses mandats présidentiels successifs, a complètement viré de bord et s'est retrouvé à fonder le parti le plus indépendantiste qui soit à Taïwan. Ça, c'est une chose. D'autre part, les relations avec la Chine, elles n'ont jamais été normalisées, et pour cause, puisque la Chine, évidemment, se refuse à reconnaître l'indépendance de fait de Taïwan. Mais
bien sûr.
L'intégration économique entre Taïwan et la Chine a été promue par les entrepreneurs taïwanais, et la législation taïwanaise a toujours légalisé ex post toutes les brèches qui ont été ouvertes par les entrepreneurs taïwanais au début des années 90.
Ouais. Non, bien sûr, je suis pas sans savoir les difficultés diplomatiques entre Pékin et Taïwan, c'est pas ce que je voulais dire, mais il n'empêche que malgré cela, il existait des liens.
Forts. Des liens commerciaux.
Oui,
mais ces liens commerciaux, oui, se sont développés parce que les entrepreneurs taïwanais n'ont cessé d'enfreindre la législation restrictive taïwanaise pour aller investir en Chine, et par conséquent, la législation taïwanaise a toujours été un cran en retard par rapport aux initiatives des entrepreneurs taïwanais. Jusqu'en 2008, lorsque le président Ma Ying-jeou, président Kuomintang, a été élu, qui, à partir de 2008, entre 2008 et 2013, a libéralisé les relations entre les deux rives, en signant un certain nombre d'accords qui n'ont aucune valeur juridique, d'ailleurs, avec les autorités chinoises.
Merci beaucoup, Françoise Mangin, d'avoir été avec nous ce matin par téléphone. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CERI. Un grand merci également à nos deux invités, Jean-Pierre Cabestan et Sébastien Collin, qui étaient avec nous depuis 11h, qui nous ont aidés à comprendre l'évolution de la situation du côté de Hong Kong dans notre série consacrée aux colères sociales. Demain, on poursuivra, on s'intéressera à l'Algérie, mais dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.